donc concernant la vie de David et aussi la vie de Salomon. Et je vais vous poser une question plus tard. Et je m'intéresse à savoir votre réponse. Parce que quand on m'a posé la même question avant, j'ai répondu d'une certaine manière. Et j'ai eu tort. Donc. Bon, mais on arrive à Moïse, n'est-ce pas? Moïse, après Jacob, les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Qui était une nation. Enfin, un peuple, mais pas encore le peuple de Dieu. Mais quand même, un peuple installé en Égypte, en captivité. N'est-ce pas? Donc, Dieu les a fait passer, les a fait sortir de l'Égypte à travers le Pâques, n'est-ce pas? Là, le Pâques, et puis ils ont traversé la mer Rouge. Et ils sont entrés dans le désert. Ça, c'était Dieu qui a délivré son peuple. Mais je passe vite là-dessus, mais un peuple qui ne connaissait pas encore Dieu. Alors, les 40 ans dans le désert, c'est là Jérémie fait référence à ça, n'est-ce pas? Israël, que dit le verset, n'est-ce pas? Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Moi, quand j'ai lu ces versets en Jérémie, j'étais un peu surpris. Vraiment, Seigneur, est-ce que les enfants d'Israël t'ont vraiment suivi au désert? Parce que quand vous lisez Exode, n'est-ce pas, et Nombre, surtout, Nombre, et vous voyez tous les échecs, et aussi la réaction de l'Éternel. N'est-ce pas? De châtier, de punir. Et le fait que aucune de la première génération, sauf Josué et Caleb, n'est entré dans le bon pays. C'était tous la deuxième génération. Quand vous mettez tout ça ensemble, c'est un peu difficile de voir. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Et donc, j'ai parlé au Seigneur, j'ai lutté pendant assez longtemps en essayant de comprendre. Et peut-être que plus tard, bon, vous aussi, vous pouvez avoir un peu de lumière, n'est-ce pas, de témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Moi, ce que ma réalisation en lisant Exode, en lisant l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, c'est que ça, c'était une période de fiançailles, une période là où ils commençaient à connaître le Seigneur. Ils ne le connaissaient pas encore. Ils étaient jeunes, n'est-ce pas? Mais ils étaient fiancés. Il y avait un. Alors, ils se sont plaints, comme des enfants. comme des enfants. Ils se sont plaints. Ils avaient beaucoup d'opinions. Ils se sont révoltés même, n'est-ce pas? Ils voulaient même rentrer en Égypte. Ils ont dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici pour périr là où il n'y a pas de miel, il n'y a pas de, n'est-ce pas, il n'y a rien que tu nous avais promis. Quoi? Nous allons, n'est-ce pas, nous serons enterrés ici.
Et effectivement, ils ont été enterrés.
Bon, ils ont... Mais c'était comme des enfants. Et ils se plaignaient toujours à Moïse, n'est-ce pas? Mais ils avaient Dieu. Ils n'avaient pas d'autre Dieu. Parce qu'ils ne savaient même pas qui étaient les autres dieux, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'ils savaient. C'était que Dieu les avait sauvés, Dieu les avait ramenés, et que la vie était dure, n'est-ce pas? Pendant 40 ans, tout ce qu'ils mangeaient, c'était de la manne. Et éventuellement, ils en ont eu assez. N'est-ce pas? Cette manne que notre âme déteste, n'est-ce pas? Ce pain léger, n'est-ce pas? Et quand nous lisons ça, n'est-ce pas? Nous pensons, ah, comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça? N'est-ce pas? Comme des petits enfants, ils ont... Mais quand Dieu les a regardés, oui, Dieu a réagi. Et oui. Mais Dieu les connaissait. Et il savait que c'était des enfants. Mais que ils commençaient à le connaître. Il y avait un rapport entre eux et l'Éternel. Et que il y avait une certaine pureté, une certaine simplicité. Alors, chaque fois qu'ils n'étaient pas contents, ils se sont plaints. Mais ça, c'est normal. Même Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez quand Moïse a frappé le rocher deux fois, n'est-ce pas? Parce que c'était un peuple rebelle, n'est-ce pas? Voilà la raison de Moïse. Il a dit, peuple rebelle, devons-nous, n'est-ce pas, est-ce que ce rocher, oui, est-ce que nous sommes obligés de vous abreuver, n'est-ce pas, de ce rocher? Et la réaction de Dieu, c'était de moi, je ne me suis pas plaint. Ils avaient soif. Donc, il fallait les abreuver. Alors, donc, ces 40 ans, c'était une période de fiançailles où ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais ils le cherchaient, n'est-ce pas? Et c'est, Dieu est comme un père. Il est sévère, mais il est fier de son peuple. Et donc, quand on dit quelque chose à propos de son peuple, Dieu est très jaloux. Dieu réagit. Dieu seul a le droit de châtier. Personne d'autre. Oh. Donc, quand il y avait ces gens, comme par exemple Amalek. Oh. Amalek. Il a osé confronter les enfants d'Israël. Dieu s'en souvient. Dieu n'oublie jamais. Même jusqu'à même au temps de Esther, alias Amant, la Guéguite, oui, n'est-ce pas, Agag, qui était roi d'Amalek. Donc, il y a ce souvenir, Dieu se souvient de tous ceux qui ont parlé mal ou qui ont agi mal contre son peuple, même aujourd'hui. Je bénirai celui qui bénira, n'est-ce pas? Et ça, c'est ça, jusqu'à maintenant. Enfin, c'est le maxime, c'est le principe de Dieu. Alors, quiconque lève son doigt contre Israël, ah, va souffrir. C'est pas plaisant. C'est quelque chose de grave. Donc, parce que Israël, le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est le trésor, n'est-ce pas? Dieu apprécie tellement. Donc Dieu a joui de ce rapport spécial avec son peuple pendant ces 40 ans. Nous, quand nous lisons, nous croyons que ce sont des petits gamins, enfin des petits. Ils n'étaient même pas dignes, n'est-ce pas? Non, mais Dieu, selon Dieu, tu touches mon peuple, tu me touches. Et donc, ces 40 ans, n'est-ce pas, c'était une préparation du peuple de Dieu, de connaître Dieu lui-même, d'être changé, parce que leur constitution était différente. Oui, ils étaient le peuple de Dieu, mais ils avaient quand même toujours une constitution, n'est-ce pas, du régime égyptien. Alors, par nature, ils étaient, n'est-ce pas, égyptiennes. Donc, il fallait être changé. Le régime, leur âme, n'est-ce pas, devait être reconstituée. Et donc, la deuxième génération a réussi. C'est toute la deuxième génération qui est entrée dans le bon pays. Donc, ça, c'est un peu le contraire de ce que nous avons, de ce que nous disions ce matin. Parce que normalement, c'est la première génération qui se soucie de la deuxième. Mais ici, c'est la deuxième, n'est-ce pas, qui a vaincu, qui est entrée. Et donc, c'est comme si Dieu, n'est-ce pas, spirituellement, la deuxième a remplacé la première. Ah. Donc, la deuxième génération qui est entrée dans le bon pays sous Josué avait une constitution différente de la première. Voyez. Et donc, c'est eux, n'est-ce pas, c'est parmi cette deuxième génération que Dieu a pu œuvrer. Dieu a pu susciter, éventuellement, David.
Amen.
David, n'est-ce pas, on passe très vite, mais David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est avec David que le désir de Dieu commence à être réalisé. Avoir une habitation, avoir une demeure. N'est-ce pas? Dans le désert, il y avait le tabernacle. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Qui était une maison, on peut dire là où Dieu habitait, n'est-ce pas? Mais mobile, n'est-ce pas? Pas permanent. Mais avec David, il y a maintenant quelque chose de permanent. Dieu a établi son nom à Jérusalem. Et Dieu veut être exprimé. Il veut une demeure dans un lieu fixe. Voyez, Dieu n'avait jamais dit ça. Voilà pourquoi il était étonné. Quand David, dans sa prière, il a dit, Dieu, moi, j'habite dans une maison. N'est-ce pas? Mais toi, tu n'as pas de maison. Dieu, il a dit au prophète Nathan, quand est-ce que j'ai dit ça? C'est comme si Dieu, n'est-ce pas, essayait de se souvenir. Est-ce qu'il y a quelque part dans les Écritures où, n'est-ce pas, où j'ai, dans Moïse, où j'ai mentionné ça? Que j'ai besoin d'une demeure permanente. Mais David avait touché ce qui était dans le cœur de Dieu. Donc, n'oubliez pas que Dieu cherche des vases, n'est-ce pas? David était un vase. Mais avec David, comment est-ce qu'il a agi? Comment est-ce qu'il a vécu pour accomplir, pour réaliser le dessein de Dieu? Il a combattu. Et donc, ce qui caractérise David, c'est qu'il a payé le prix. Il a combattu. Donc, c'est lui qui a préparé tous les matériaux pour le temple, pour construire le temple. Donc, quand nous parlons du temple, je sais que pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, vous connaissez très bien les Écritures, et aussi vous connaissez aussi la vision de l'Église. N'est-ce pas? L'Église, c'est quoi? C'est l'habitation de Dieu, là où Dieu habite. Nous sommes l'Église, n'est-ce pas? L'Église, ce n'est pas un bâtiment physique, c'est un, n'est-ce pas? C'est là où Dieu habite en nous, dans notre esprit. Donc l'Église, à vrai dire, l'Église, c'est quoi? C'est notre esprit, là où Dieu habite. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de construire, d'édifier l'Église, n'est-ce pas? De bâtir l'Église. Ça veut dire... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et David s'est rendu compte que il ne s'agissait pas simplement de construire le temple, mais de préparer les matériaux pour le temple. Et comment est-ce qu'il les a préparés? Il a lutté. Il a combattu. Donc, il y a plusieurs choses qui caractérisent David. Mais une de ces choses, c'est que il était guerrier. Il a lutté. Tout ce qu'il a accumulé, il a obtenu par des combats. Donc, pour édifier l'Église, il y a un combat. C'est un combat. Un combat continuel. Et Salomon est tombé dans l'erreur. Salomon, le fils de David. Bon, je parlerai de lui plus tard, parce que je ne veux pas me devancer. Mais en parlant de David, David connaissait le Seigneur. Et donc, pour David, construire la maison de Dieu, bien qu'il ne l'ait pas construite, mais construire la maison de Dieu, ce n'était pas seulement de produire quelque chose, mais c'était de susciter, d'être travers des gens, des hommes, qu'il pouvait perfectionner, qu'il pouvait, en qui il pouvait dispenser quelque chose. Donc David avait combien d'hommes? 600 hommes, n'est-ce pas? 600 hommes. Et donc, il savait, si nous parlons de David spirituellement, selon le Nouveau Testament, il savait que l'Église ne se construit pas extérieurement. Il faut s'investir dans les individus. Il faut s'investir dans les hommes et les femmes, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Il faut se reproduire. Il faut... Si nous allons avoir l'Église, ce n'est pas que tout le monde se rassemble et on est l'Église. Pas seulement ça, non. C'est que ce que je vois, le Seigneur que je connais, devient le Seigneur que vous connaissez. La vision que moi je vois devient la vision que vous voyez. N'est-ce pas? Il y a une reproduction, il y a un investissement dans d'autres individus. Et ces individus, ces hommes, seront aussi notre salut. David, vous savez, David, était peut-être le roi le plus... Il a péché. Il a fait des choses que d'autres rois n'ont pas fait. N'est-ce pas? Mais il a pu, Dieu a pu lui parler. Parce qu'il avait, il savait être avec d'autres. Il était ouvert à être corrigé. Donc on pouvait facilement venir à David. Les prophètes, n'est-ce pas? David, Nathan, n'est-ce pas? Le prophète Gad, plus tard. Mais pas seulement les prophètes, mais même d'autres gens, comme Joab, qui n'est pas très spirituel, si vous connaissez Joab. Bon, mais David, et puis d'autres aussi. Achitophel. Oui, Achitophel et Husha, l'autre, Hushaï. Vous voyez, il y avait des gens autour de David, et pas tous des vainqueurs. Non, loin de ça. C'était, n'est-ce pas, Joab et les fils de Zeruiah, n'est-ce pas, qui étaient très durs, ouais, et qui a causé des problèmes, n'est-ce pas, à David. Mais qu'est-ce qui a préservé David? Comment est-ce que David a pu préparer les matériaux? C'était parce que il a combattu, mais pas seul. Il avait une équipe. Il avait une équipe. Il y avait un corps de gens, de frères et de sœurs, de qui il était entouré. David n'était jamais seul, même pendant la division, quand son fils Absalom s'est rebellé contre lui. David avait, n'est-ce pas, des frères, des gens qui étaient avec lui. Pour le fortifier et pour le corriger, n'est-ce pas? Et donc, David a pu combattre. Et tous les matériaux du temple ont été accumulés à cause des batailles. personne est venu à David avec des dons, n'est-ce pas? C'est bon, de loin, n'est-ce pas? On a entendu parler de votre sagesse,
de vos exploits. Alors, voilà nos dons, voilà nos offrandes. Non,
tout ce que David a obtenu, il a obtenu par ses efforts, par, bon, bien sûr par Dieu, mais par son exercice, n'est-ce pas? Rien n'est venu, rien n'était bon marché. Tout a été obtenu avec un prix. Donc, c'est ça qui caractérise David. Alors, son fils, éventuellement, n'est-ce pas, même quand David était prêt de mourir, près de la mort, n'est-ce pas, et son autre fils, Adonija, elle est, n'est-ce pas, usurpée, le royaume. Ah, bon, c'est ça, c'est Bathsheba, n'est-ce pas, qui a parlé avec Nathan, n'est-ce pas, pour lui dire que c'est Salomon, n'est-ce pas, que David avait dit. Donc, éventuellement, Bathsheba, n'est-ce pas, Nathan est entré Bathsheba pour parler avec David. Ouais, même jusqu'à son... Même quand il était âgé, il savait être... Il avait des frères, des sœurs qui pouvaient être, qui pouvaient le corriger, qui pouvaient. Il n'était pas seul. Il n'a pas tout fait, n'est-ce pas? Mais il savait comment perfectionner, comment susciter d'autres pour édifier l'église, pour construire le temple. Ok, maintenant la question que je vous pose, parce que vous connaissez Salomon, n'est-ce pas? Salomon, ah oui. Qui était plus riche, David ou Salomon? Salomon. Oui. Non mais voilà la question qu'on a posée à Montréal quand on lisait, parce qu'on a lu 1-2 Rois et 1-2 Chroniques avec les jeunes. Et quand on est arrivé à Salomon, oh, Salomon, vraiment il est... C'est l'apothéose, n'est-ce pas, du royaume d'Israël, n'est-ce pas, la gloire du premier temple. Bon, et même on est venu de loin, la reine de Sheba, n'est-ce pas, avec des doutes. Ah, maintenant je vois avec mes yeux, n'est-ce pas, donc, mais, ok, alors, il y a des versets, on va lire, ok, Ok, 1 Roi, chapitre 10, verset 14. Et je pense que pour le reste du message, n'est-ce pas, si nous comprenons, si nous touchons la différence entre David et Salomon, ça y est, ça c'est... je pense que... Bon, le message est fini. Parce que David et Salomon, euh, nous présente la différence entre la captivité, n'est-ce pas, la captivité et la liberté. C'est-à-dire que connaître Dieu, soi-même, contraire à avoir les choses de Dieu, mais peut-être sans Dieu, n'ayant jamais lutté pour obtenir Dieu, tout à lui, tout est donné, n'est-ce pas? Et ça peut nous endommager. Quand tout est donné, quand tout est hérité, on hérite quelque chose, on ne l'apprécie pas. Et on va le perdre. Et ça, c'est Salomon. Bon, mais, ok, 1 roi, chapitre 12, 10, verset 14.
Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or.
Ok, oui, non, ça va. Mm-hmm. Oui, bon, si on peut, ok, donc ça veut dire 666 talents d'or. Et combien d'années est-ce que Salomon a régné?
Chaque année.
Donc 40 ans. Il a régné 40 ans, comme son père. 40 ans, chacun. N'est-ce pas? Donc 666 fois 40, n'est-ce pas? Ça fait 26 640 talents d'or. Si on... Bon, ça veut dire... Plus ou moins. Peut-être que une année, il en a reçu plus. Une autre année, il en a reçu moins. Ça, c'est possible. Mais même si on prend en considération, si on permet tout ça, on permet des, il y a des différences, n'est-ce pas? À peu près 27 000, n'est-ce pas? Pour une somme ronde, n'est-ce pas? 27 000. Ok. Maintenant, 1 Chronique, chapitre 22. Verset 14.
1 Chronique, chapitre 22, verset 14.
Et ça, c'est David qui parle, n'est-ce pas, à Salomon.
Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, une quantité de rein et de fer qu'il n'est pas possible de puiser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore.
Mm-hmm. Amen. Donc, David, il a préparé 100 000 talents d'or. Donc, je vous demande, 27 000, bah, même pendant 40 ans, n'est pas proche de 100 000 talents d'or. Or, on peut dire que, ok, Salomon, il a reçu sans doute d'autres choses de l'extérieur. Et ça, c'est possible, c'est vrai, avec les dons et tout ça, n'est-ce pas? Mais même ceux qui recevaient 666 talents d'or en dons de l'extérieur, fois 40 ans, n'est-ce pas? C'est... vous voyez? Donc, David, et le problème c'est que avec David, on n'a pas l'impression qu'il était riche, n'est-ce pas? C'est juste à la fin de sa vie, quand il parle à son fils, il instruit son fils. C'est à ce moment-là qu'il mentionne cela. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il y a des révérences quand il remporte la victoire. Par exemple, il enlève la couronne. N'est-ce pas? La couronne d'un roi est enlevée et mise sur la tête de David. Et je pense que le poids est mentionné. Donc ça, c'est vrai. Bon. Mais à part cela, on n'a pas l'impression que David a même a mené une vie de luxe, une vie, n'est-ce pas? Et quand on a cette impression qu'il a mené une vie de luxe ou de, c'est à ce moment-là qu'il a péché. Donc quand il s'est levé tard, n'est-ce pas, quand son armée était en guerre et lui il est resté, à ce moment-là, c'est là qu'il a péché. Mais à part cela, il était un homme, n'est-ce pas? Un roi, un guerrier, avec ses hommes, parmi ses hommes, ses 600 hommes, n'est-ce pas? Entouré des gens pour l'équilibrer et qui pouvaient être perfectionnés, pour les former en une armée. Ça, c'est David. Donc, à ce moment-là, le royaume de Dieu a été établi. C'était c'était par, n'est-ce pas, son exercice. C'était par son investissement dans les gens que le royaume. C'était pas par les richesses extérieures. C'était pas la splendeur extérieure. Et donc, éventuellement, quand vous lisez un chronique, vous allez voir, n'est-ce pas, comment David a arrangé, comment il a coordonné tous les services. Avant du temple, avant même, bien qu'il n'ait pas pu le construire, oui, mais pour lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu le construire? Bon, Dieu lui a dit que tu ne peux pas le construire parce que tu as versé trop de sang, n'est-ce pas? Bon, mais pour David, il avait envisagé, n'est-ce pas? C'était pas même la construction du temple, mais c'était la fonction de tous les gens. On peut dire les frères et les sœurs, leur fonction, comment ils allaient fonctionner. C'est ça qui était important pour David, n'est-ce pas? Comment un frère s'exerce? Comment un frère croit? Comment un frère avance? Comment il peut arriver à son potentiel? Comment il peut accomplir son ministère? C'est ça. C'est ce qui concernait David. Beaucoup plus que la façade extérieure. Et quand, encore une fois, quand il a pensé à combien de gens il avait, il a chuté. Alors quand il voulait dénombrer le peuple à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais il a pu être corrigé. Vous voyez? Donc il ne s'agissait pas des nombres. Combien de gens? Est-ce que, n'est-ce pas? Et même Joab, l'homme le moins spirituel, pouvait lui dire, mon roi, Dieu t'a donné suffisamment, il peut en donner plus, pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Joab, il avait un peu de perception là. Joab, de tous les gens, n'est-ce pas? Bon, vous voyez, mais ça veut dire que quand nous voyons un frère ou une sœur, qu'est-ce que nous voyons, n'est-ce pas? Est-ce que nous voyons une croissance, nous voyons un avancement, un développement? Ce frère, n'est-ce pas, il peut devenir, il peut être vraiment utile pour le Seigneur, il peut aller ailleurs, il peut évangéliser, il peut devenir évangéliste, il peut, Dieu peut l'utiliser. Mais pas seulement un rêve, mais est-ce que nous sommes prêts aussi à œuvrer, à passer du temps, à nous investir en, n'est-ce pas, ses frères et sœurs? Ça, c'est David. Voyez. David, très rarement, il n'a pas utilisé les gens. Et peut-être que la seule, là où il a utilisé quelqu'un, il a profité de quelqu'un, encore une fois, c'est quand il a chuté. N'est-ce pas, le mari de Bathsheba, il a envoyé à la guerre, n'est-ce pas, pour... Mais pour son royaume, n'est-ce pas, tous les gens, il n'a pas profité. Contraire à Saul, à Saül, n'est-ce pas, à Saül, David, il n'a pas utilisé ces hommes comme son capital. Il ne les a pas exploités. Même ceux, vous vous souvenez, les 200 qui étaient trop faibles pour poursuivre l'ennemi, David a dit, il reste, il demeure, et qu'il partage quand même le butin, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est David, n'est-ce pas? Alors voilà un peu le portrait de David, n'est-ce pas? Salomon. Oui. Il faut se méfier parce que Salomon, il a écrit quand même combien de livres? Il a écrit quoi? Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Les psaumes. Quelques psaumes, oui, c'est ça. Oui. Mm-hmm. Voilà. Donc. Non, donc je dois me méfier parce que tu vas, n'est-ce pas? Et il est vrai que Salomon est un portrait de Christ aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais, donc il faut de la sagesse pour même faire des comparaisons. Et c'est pas pour critiquer, mais c'est pour que nous puissions apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Quand David, je reviens à David, quand David a dit qu'il voulait construire un temple, et Dieu s'est étonné, n'est-ce pas? On a parlé de ça. Qui a dit à David? Qu'est-ce que Dieu a dit à David? Il a dit, tu veux me construire une maison? Ce n'est pas toi qui vas construire une maison, mais c'est moi, une maison pour toi. Et ce qui va sortir de toi, n'est-ce pas, va construire une maison. Et ça, quoi, son trône sera pour toujours. Alors, bon, bien sûr, ça fait référence à Salomon, on peut dire, mais en fait, ça fait référence à Christ, parce que le trône de Salomon s'est arrêté, n'est-ce pas? Mais c'est Salomon qui a construit le temple physique. Mais c'est Dieu qui a construit une maison pour David. Même on peut dire en David, je te bâtirai une maison. Ça veut dire que, vous voyez, voilà pourquoi Étienne,
je saute un peu,
Étienne, quand il a parlé, n'est-ce pas, aux Juifs, dans Actes chapitre 6, chapitre 7, n'est-ce pas, il a dit, et Salomon a bâti une maison pour l'Éternel, mais l'Éternel ne demeure pas dans les maisons faites des mains. Vous voyez, ça veut dire que oui, ce que Salomon a fait était, il devait le faire, c'était selon Dieu. Mais le vrai temple, la vraie maison, ce n'est pas ce que nous construisons pour Dieu, mais c'est ce que Dieu construit en nous.
Amen.
Donc, ce que Dieu, nous devenons le temple de Dieu. Ce n'est pas que nous bâtissons quelque chose pour Dieu, mais c'est Dieu qui œuvre en nous. Ah. Vous voyez. Et donc, David, toute la vie de David a été une expression, manifestation de l'œuvre de Dieu en lui. Malgré ses échecs, ses faiblesses, n'est-ce pas, Dieu a pu œuvrer en David pour construire une maison, une demeure. Salomon a construit une maison pour Dieu et il a demandé, n'est-ce pas, il a commencé très très bien, il a demandé à Dieu pas de la des richesses ni une longue vie, mais de la sagesse, n'est-ce pas, et il a connu, n'est-ce pas, son essor a été vraiment magnifique. Et même sa prière, que vous lisez, n'est-ce pas, sa prière, etc., son humilité, et bien sûr, sa renommée, il a été reconnu comme l'homme le plus sage qui pouvait discourir, pouvait parler de tout. N'est-ce pas? Il n'y avait aucun sujet de quoi il ne pouvait pas parler. Alors, je me demande, qui étaient ses conseillers? Ben, il connaît tout, on pouvait. Oui, qui oserait? N'est-ce pas? Il avait beaucoup de serviteurs. Et même, il a employé beaucoup de, n'est-ce pas, beaucoup de gens pour faire la construction du temple. Mais où étaient les prophètes? Quand Salomon a commencé à s'éloigner, il a commencé à épouser toutes ces femmes, où étaient les prophètes? Dieu, apparemment, Dieu est venu à Salomon, n'est-ce pas? Et en lisant ce que Dieu a dit à Salomon, il est clair que Dieu avait parlé à Salomon, l'avait averti. Ah. Comment est-ce qu'il avait averti? Nous ne savons pas. Mais il n'y a aucune mention des prophètes. Où était Gad? Où était Nathan? Est-ce qu'ils ont essayé? Je ne sais pas. Mais est-ce que Salomon avait des frères, n'est-ce pas? Il semble que personne ne pouvait le toucher. David était touchable parce qu'il était faible. Il était, n'est-ce pas? Et donc, et son cœur était tellement ouvert, tendre. Alors, quand Dieu a décidé de diviser le royaume en deux et d'en donner une partie à Jéroboam, n'est-ce pas, le serviteur de Salomon a essayé de le tuer. Il a essayé de le tuer. Vous voyez, ça c'était la réaction de Salomon. Tandis que David, quand il avait dénombré le peuple d'Israël, et Gad est venu lui offrir les trois choix, n'est-ce pas? David a choisi, il a dit, il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire que ce que l'Éternel détermine, je me fie à ça. Mais Salomon, il a essayé de tuer. Il a essayé de tuer, n'est-ce pas, Jéroboam, qui est devenu désormais son adversaire. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait quelque chose de l'ambition pour garder quelque chose pour lui-même. N'est-ce pas? Et donc, cette pureté, cette simplicité que Salomon avait au début a disparu. Donc, il est vrai qu'il a écrit trois livres et quelques psaumes, oui, et on ne peut pas le nier. Cantique des Cantiques, qui est peut-être l'un des livres les plus profonds concernant le rapport entre, n'est-ce pas, le Seigneur et l'épouse. Oh, on ne peut pas, ça c'est vraiment... Mais la fin de Salomon et la fin du royaume d'Israël est vraiment pitoyable. Parce que le fils, la deuxième génération, n'est-ce pas, il n'a pas lutté. Tout lui a été donné. Il a hérité tout de son père. Et c'est vrai que spirituellement, n'est-ce pas, Salomon représente Christ. Oui. Mais pour nous, pour apprendre des leçons spirituelles, nous devons nous méfier. C'est-à-dire que, est-ce que nous contentons de vivre selon ce qui nous a été donné? Ou est-ce que nous allons prendre ce qui nous a été donné comme un don et en faire le nôtre? C'est-à-dire que ce que nous avons appris, ce qui nous a été dispensé, est-ce que nous sommes prêts à lutter pour ça, à le défendre et même à le répandre? Oui. Donc, c'est pareil avec l'Évangile. Un bon exemple, c'est l'Évangile. Est-ce que moi je suis prêt à lutter pour l'Évangile, à combattre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi j'ai reçu quelque chose, mais pour que ça devienne la mienne, je dois la dispenser, je dois la répandre. Si je ne m'exerce pas, ce que j'ai reçu risque de devenir vieux, risque de devenir quelque chose de statique. Ça devient un trésor, hein, qui m'a été donné, mais qui n'est plus actif. Et donc, je vis ma vie, n'est-ce pas, avec 666 talents d'or chaque année. Pas mal ça. N'est-ce pas, je peux maintenir ma vie comme ça. Je n'ai besoin de plus rien faire. Je vis. C'est comme si vous aviez 1 million de dollars et puis vous viviez sur l'intérêt. Ça serait, n'est-ce pas? On vit sur l'intérêt. Et on n'a pas besoin de
On a besoin de rien faire de plus. Mais est-ce que je suis prêt à investir ce que j'ai spirituellement dans des autres? Et ça, c'est la différence entre David et Salomon. N'est-ce pas? David avait Jonathan. Jonathan était l'un des, n'est-ce pas, était son compagnon. Et Jonathan, il a touché quelque chose à cause de David. Et donc, dans la vie de l'Église, il faut un Jonathan. Il faut avoir un Jonathan. N'est-ce pas? Un frère ou une sœur. Parce que Jonathan, c'est, n'est-ce pas, un frère ou une sœur avec qui, en qui, avec qui nous pouvons être ensemble. Quelqu'un que nous pouvons accompagner, qui peut nous accompagner pour croître. Donc, chaque armée a besoin d'un David et d'un Jonathan ensemble. Et ça, c'était le principe de David. David, n'est-ce pas ? Avec ses hommes, il savait comment être avec eux, il savait comment passer du temps avec eux, comment les perfectionner, comment être perfectionné par eux. Ça, c'est la vie de l'Église. C'est comme ça que l'Église croit. Et de plus en plus, je suis convaincu, selon mon expérience, les réunions, les rassemblements, n'est-ce pas, ne sont pas forcément les meilleurs, le meilleur. La meilleure indication de la croissance de l'Église, c'est la vie quotidienne, la vie pendant la semaine. Donc, dans les réunions, on voit, n'est-ce pas, certains qui viennent, n'est-ce pas, ils sont attirés. Mais pour qu'ils restent, pour qu'ils voient quelque chose, c'est ça la croissance. Il faut des David et des Jonathan. Il faut des les 600 hommes de David. Ce n'était pas des 600 hommes dans l'air, mais pratiquement avec David. Donc, est-ce qu'il y a un frère, une sœur, frère avec frère, une sœur avec sœur, un frère avec qui je collabore, que j'accompagne, n'est-ce pas? Voilà ce que autrement, difficile. Et c'est là, c'est ça le défi. Au début, j'ai parlé un peu de ça, n'est-ce pas? De croître, n'est-ce pas? De 20 à 60, 70, ça c'est oui. Oui, de 70 et plus. Mais il ne s'agit pas de nombre, non. Oui, mais le nombre aussi
se multiplier. Ça va arriver. Il faut que ça arrive, n'est-ce pas? Mais il faut que ça arrive par la croissance de la vie. Et comment est-ce que la vie va croître? C'est quand il y a le 1 sur 1. Il y a le contact, il y a le... n'est-ce pas? Le pâturage individuel. Où... c'est-à-dire que dans ma vie, est-ce que je peux nommer des frères avec qui je suis? Bon, ah, je suis dans les réunions, je suis avec tous les frères. Oui, ça c'est vrai. Okay. Mais donc plus pratiquement, est-ce que je peux nommer tous les frères avec qui je prie? Tous les frères avec qui je lis la Bible, tous les frères avec qui, ou les sœurs, avec qui je, n'est-ce pas, avec qui je passe du temps. Il y a des... donc, ça c'est un peu, quand je parle de David et de Salomon, il paraît que Salomon était entouré de beaucoup de gens. Wow, c'est... on venait de partout. Mais, en fin de compte, il était solitaire. Dans ses richesses, dans sa sagesse, c'était difficile d'être frère, un simple frère. Parce qu'il était tout le temps de regarder comme un super homme, n'est-ce pas? Alors, c'est difficile d'être frère quand tout le monde te regarde comme un superman, super homme, n'est-ce pas? Voilà. Et apparemment, tout est glorieux, n'est-ce pas? L'Église croît, le royaume grandit, mais le cœur, Salomon, s'éloigner. Ah, incroyable! Comment se fait-il qu'un roi comme Salomon ait pu s'éloigner? Oui, ok, la Bible, ce sont ces femmes qui l'ont... et même... oui, mais... mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau? Et c'était pas tout d'un coup, c'était peu à peu. Voyez. Donc, c'est un avertissement pour moi. Voilà pourquoi quand je viens. Et quand c'est possible, j'aime toujours rendre visite. Là où je suis, on essaie de s'exercer, et c'est pas facile. On s'exerce à rendre visite aux frères, aux familles. Ah, ça c'est David. Donner des messages le dimanche matin, on aime faire ça. N'est-ce pas, les frères aiment ça beaucoup. Je sais, parce que moi aussi, n'est-ce pas, il y a quelque chose de... bon, de toute façon, mais la vraie œuvre, on n'est pas tellement, on ne veut pas tellement le faire. On préfère être vu, on préfère, mais les choses cachées, le temps qu'on passe avec un frère, n'est-ce pas, que personne d'autre ne voit, ça, on ne le voit pas, n'est-ce pas, le combat, ça c'est le combat. Enfin, le combat spirituel. Quand vous essayez de vous mettre ensemble avec un. De rendre visite à un frère, et il dit bah, pourquoi ? Je vais bien. Bon, je serai là à la réunion dimanche prochain. Alors, il pense que je vais venir l'aider. Et il n'a pas besoin d'être aidé. Vous voyez ? Et non ! C'est pas mon intention de vous aider. Je veux être avec vous. Moi, j'ai besoin de vous aussi. Parce que je suis seul. Pas... Si nous pouvons lire la Bible ensemble, c'est pas pour vous enseigner la Bible. Non. C'est juste pour lire la Bible et prier un peu et c'est tout. Vous voyez ? Donc, c'est pas facile. Ah, on essaie. Il y a un frère, il dit non. Ou moi, je lis la Bible seul. Hein, je la lis seul. De toute façon, donc, j'ai pas besoin d'un autre frère pour la lire ensemble. Vous voyez ? Donc, ça, ce n'est pas facile. Donc, tout vient à un prix. N'est-ce pas ? La vie de l'Église, ça demande un prix. Il y a un investissement. Et voilà donc un peu mon fardeau, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la différence entre David et Salomon. Parce que si ça c'est clair, le reste du message sera clair aussi. C'est-à-dire que la captivité, n'est-ce pas ? Commence avec Salomon. La chute. Déjà. Et la captivité finale ne sera que l'expression, la conséquence. N'est-ce pas ? D'un refus de lutter, d'un refus de combattre, de payer le prix. On aime que les choses viennent facilement. Alors, je repointe, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ben, on va construire des veaux d'or dans le nord. Hein? Comme ça, les gens peuvent aller là-bas adorer. Et on dit, bon, mais surtout parce qu'ils savaient que s'ils allaient dans le sud, à Jérusalem, ils allaient perdre. Il allait perdre son contrôle, n'est-ce pas? Et donc, déjà, la captivité est commencée. C'est la condition du peuple. Hein? Donc, quoi ? Le double péché en Jérémie, n'est-ce pas ? Ils m'ont abandonné, moi, comme leur source d'eau, pour creuser des citernes. Oui. C'est ça, ils ne contiennent pas l'eau. C'est-à-dire, créer quelque chose d'autre pour remplacer Dieu. Mais qui a semblant d'être Dieu. Et on se trompe. Ça, c'est Dieu, n'est-ce pas ? Contrairement aux enfants d'Israël dans le désert, où ils se sont plaints, ils ont murmuré, mais ils avaient Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas d'autre chose. Alors, il se plaignait toujours à Dieu. Mais Dieu aimait. Mais au moins, si vous allez vous plaindre, tenez-vous à moi. N'est-ce pas ? Dites à Dieu tout ce que vous voulez. Ah, c'est pas juste. Et pourquoi est-ce que vous faites ça ? Tu permets ça, tu fais ça dans la vie de l'Église, ou je n'aime pas ça. Tout ça. Mais quand nous commençons... Oui, ça c'est là où nous sommes, n'est-ce pas ? Si nous sommes... Bon, c'est, nous n'y pouvons
pouvons rien, n'est-ce pas? C'est comme un enfant qui se plaint à son père, à ses parents. Mais il est toujours avec ses parents, n'est-ce pas? Et ça, c'est bien. Mais dès que l'enfant va ailleurs pour remplacer ses parents, mais tout en gardant ses parents, à ce moment-là, la situation devient vraiment sérieuse. Parce qu'on pense qu'on a ses parents, mais on a, en fait, on en a d'autres. Voilà là, le problème. Voilà, bon, je m'arrête là. Je sais que... Il a... Amen. Mais, oui.